RTL Matin.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine, vous recevez donc ce matin celui qui est encore le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Taverneau.
Et Nicolas de Taverneau, vous vous apprêtez donc à quitter le groupe M6 après 37 ans, presque la moitié de votre vie. Je le disais, vous avez connu pas moins de 17 ministres de la Culture, de Jack Lang à Rachida Dati. Et ce soir donc, à minuit, j'imagine, ce sera officiellement terminé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin en vous levant ?
Ben, je me suis dit que la transition se passait bien. C'est pas toujours le cas dans les entreprises, surtout quand il y a un dirigeant un peu ancien ou historique. Et donc, on a une bonne transition. J'aurai mon plus jeune collègue, David Lara Mendy.
Mendy.
C'est un Basque, qui va prendre la suite, et avec une bonne équipe, et dans un climat agréable. Donc, quand vous réussissez votre transition, vous avez déjà fait pas mal de... La boucle est bien bouclée.
Mais vous avez pas eu un petit... Je sais pas, pincement au cœur. Vous y avez pensé ou pas en vous levant?
Les autres. J'ai eu le temps quand même de m'y faire, mais voilà, parce qu'on m'a prêté souvent des départs qui ne sont pas arrivés. Il y avait Maxime Saada, mon collègue de Canal+, qui disait assez drôlement « Méfiez-vous, les Rolling Stones ont fait 10 soirées de départ ». Mais je rassure David, c'est le bon. C'est le, bon. Bonjour. Et donc, il y a un petit pincement au cœur parce qu'il y a une formidable équipe. Puis on revoit un peu de... Puis la boucle est un peu bouclée chez vous parce qu'on a commencé dans les studios d'RTL rue Bayard. C'était un placard à balai à l'époque, on était 50, et donc de revenir dans ce studio avec vous ici, c'est évidemment, c'est un peu la fin du parcours et qui montre quand même que le groupe a, on a un beau groupe aujourd'hui.
Et demain matin, c'est quoi le programme? Réveil ou pas réveil?
Demain matin, j'ai une nouvelle assemblée générale chez nos amis espagnols à Antena 13, et puis j'ai encore un peu de boulot à faire après.
Bon, et après, justement, qu'allez-vous faire? Il y a quelques semaines, dans le journal Le Point, vous disiez, si ma santé me le permet, j'aurai des activités professionnelles différentes de celles d'aujourd'hui. Vous verrez et serez peut-être surpris. Vous êtes en pleine forme, vous allez faire quoi ?
Je vais continuer à travailler parce que je pense que quand on a la chance d'avoir une bonne santé, c'est pas la peine de s'arrêter. Et donc je travaille dans d'autres activités. Il y a un groupe auquel je participe actuellement, qui est le groupe GL Events, je sais pas si vous connaissez, qui est un très beau groupe événementiel. Voilà, donc je vais avoir quelques activités, mais j'aurai toujours un petit œil sur M6, à la fois comme auditeur d'RTL, donc j'en verrai peut-être des et puis comme de voir un peu l'évolution de ce paysage audiovisuel. Vous savez que moi j'ai énormément plaidé pour la concentration, parce que nous sommes des... Même si notre groupe a grandi, les groupes français sont très petits. On a, malheureusement, nous n'avons pas été autorisés à fusionner avec notre principale concurrence. C'est une erreur historique.
Une erreur historique de qui?
Ben, disons des autorités qui l'ont décidé. C'est une erreur historique parce qu'on avait la chance de pouvoir concourir avec les Américains qui sont beaucoup plus importants que nous. Demain, les Chinois. Le paysage du zèle français a besoin de se muscler. Et c'est pas en l'émiettant qu'on arrivera à le risquer. Donc, il va falloir absolument qu'on trouve des accords. Alors nous avons commencé à le faire puisque je rappelle qu'RTL, nous l'avons racheté en 2017. On a des activités de cinéma, on a d'autres chaînes de télé comme Paris Première, comme W9, etc. Donc on a constitué un groupe, mais on est encore trop petit, et nos compétiteurs le sont également, pour lutter contre les grands groupes internationaux et l'évolution technologique qui se passe avec notamment Internet et streaming.
Mais quand vous parlez, Nicolas Taverneau, d'erreur historique, c'est un mot fort. Les autorités sont responsables, elles veulent tuer le paysage audiovisuel français, vous le direz?
Non, je ne pense pas qu'elles veulent le tuer.
Elles ne se rendent pas compte
qu'on a très souvent, on regarde souvent le passé et on n'appréhende pas l'avenir. C'est-à-dire qu'on photographie un instant présent sans se projeter dans l'avenir. C'est vrai dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, l'Europe, parce que ce n'est pas propre à la France d'ailleurs, c'est propre à l'Europe, l'Europe a besoin de se muscler avec des entreprises fortes parce que la concurrence est très, très violente. Vous le savez, François Langlais le dit tous les matins. Et cette concurrence forte, elle est particulièrement vraie dans le domaine de l'audiovisuel, avec les Netflix, les Disney, les Warner, etc. Et donc, il vaut mieux regrouper les entreprises françaises ou les entreprises européennes. Et ça n'a pas, jusqu'à présent, ça n'a pas pu se faire.
Dans 10 ans, la télé, elle existera toujours?
Oui, alors, il faut faire attention, les prévisions, par exemple, Monsieur Netflix, si j'ose dire, avait dit, il n'y aura jamais de publicité sur Netflix. Ben, on a trouvé de la publicité sur Netflix assez vite. Bon, aujourd'hui, les mondes se rapprochent, d'ailleurs, entre le streaming et la télévision dite traditionnelle, et nous lançons M6+, là, bientôt, le 14 mai, c'est du streaming, c'est-à-dire, c'est quoi le streaming? C'est la possibilité à ce que chaque téléspectateur choisisse le moment où il veut regarder son
c'est
programme.
C'est voir où on veut, voilà. Quand on veut.
Alors, soit, vous voyez, par exemple, je sais pas, ce soir ou hier soir, il y avait Marié au premier regard chez nous, et ben, elle pouvait être regardée avant streaming à l'heure qu'on souhaitait. Ou elle pourra être regardée après si on n'est pas devant sa télé. Donc, c'est une évolution, c'est un confort d'usage, mais c'est pas un bouleversement.
C'est pas un bouleversement, c'est pas une révolution.
Non, c'est pas une révolution parce que ce sont les mêmes programmes. Vous voyez, par exemple, Disney Plus vient d'acheter les droits de l'Europa League pour les pays nordiques. Donc, on a les mêmes programmes aujourd'hui. Seule l'info, ce qu'on appelle le hot news, n'est pas encore en streaming. Pourquoi ? Parce que c'est, il y a des rendez-vous qui sont fixes. Mais ce sont les mêmes programmes, simplement, ils sont regardés de manière différente. Le vrai changement, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire qu'Internet a aboli les frontières qu'avant vous aviez avec les émetteurs. Bon. Et cette internationalisation fait qu'il y a des très grandes sociétés qui pénètrent aujourd'hui, tout à fait honorables, Fox, Disney, etc., qui pénètrent le marché français, et qui aujourd'hui viennent concurrencer le temps que les Français passent devant un écran, avec YouTube, avec etc. Et ça, nous avons besoin de faire plus de programmes. C'est pas la technologie. C'est plus de programmes, plus de contenu, plus de fiction, plus de séries, plus de sport. Et c'est pour ça qu'on achète des grands événements sportifs, parce que nous devons concourir contre ces plateformes qui ont la même offre que nous.
Vous évoquez le sport, les droits de la Coupe du Monde 2026-2030, dont vous étiez venu ici même, nous annoncer d'ailleurs l'acquisition. C'est votre plus beau coup, ça ?
Bon, je veux pas un coup.
C'est un joli coup quand même.
Simplement, nous avons besoin. Là, les Français vont regarder la Coupe d'Europe sur TF1 et chez nous. On se la partage à égalité. Ils regarderont l'Euro 2008 simplement chez TF1 et nous avons acquis 2006 et 2030 les deux coupes du monde. Mais il y a plein d'autres événements sportifs. Il y a pour les Marseillais là, nous allons le 2 mai sur M6 mettre la demi-finale de l'Europa League.
Mais c'est quand même une petite fierté de quitter le groupe comme ça en ayant signé ça.
Oui.
Vous aimez ça.
On a besoin d'avoir. Nous sommes en première division, voire en Champions League. Voilà. Et donc M6 n'est pas une chaîne thématique.
C'est plus la petite chaîne qui monte.
Non. Elle monte, mais ce n'est plus une petite chaîne.
Encore un mot du passé. Votre pire cauchemar, un truc que vous avez jamais raconté.
Oh, je ne sais pas si c'est des trucs que j'ai jamais raconté, mais le cauchemar, ça a été le Loft.
Le Loft, ça a été le cauchemar. Loft,
parce que ça a été à la fois un événement spectaculaire, parce que ça a bouleversé la télévision. Mais
premier programme, je rappelle, de télé-réalité qui débarque en 2001.
Voilà. Aujourd'hui, ça paraît une bluette, mais à l'époque, vous aviez des camps de concentration à la une du monde, vous aviez des gens qui vous serraient pas la main, une protection policière, des poubelles contre la façade, et en plus, c'était du direct. Donc, il fallait gérer ces lofteurs. Si j'ose dire, et il se passait tous les jours quelque chose, et dans la chaîne 24h/24, vous aviez quelqu'un qui était au casque, qui écoutait, qui mettait des bips quand c'était pas fréquentable. Voilà. Et certains concurrents, je les nommerai pas, avaient essayé d'en profiter pour qu'on nous retire la fréquence, pour contraire à la dignité de la personne humaine. Vous vous rendez compte?
Mais vous l'avez jamais regretté, ça, le Loft?
Non.
Vous le referiez?
Oh ben, de toute façon, je veux dire, il n'est pas disponible parce qu'il est chez notre concurrent. Donc,
non, mais si c'était à refaire, qu'on se reprojetait 20 ans, 25 ans en arrière, vous le referiez? Parce que ça s'est fait, c'était pas prévu. Vous aviez juré que vous le feriez pas, et puis...
J'avais rien juré du tout. Ah bon. On avait interprété. Ça, c'était différent. Non. Ce qui était intéressant dans le Loft, c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est plus nouveau, toutes ces opérations.
Oui.
Et donc, il fallait être les premiers à faire ça, parce que quand on est une chaîne qui crée des événements, qui crée des nouveaux programmes, on était les nouveaux à créer un magazine économique comme Capital. À 20h50, on a fait beaucoup de choses qui étaient assez novatrices, et il fallait pas laisser les concurrents arriver là-dessus.
Dernière question, vous avez pas tout à fait répondu à ma question sur la suite. Est-ce que vous pourriez diriger un autre média que le groupe M6?
Écoutez, non. Si ça facilitait la vie du groupe M6, oui. Mais d'abord, maintenant, il y a une équipe avec David Lara Mindy, je précise. Non, sinon je vais me faire attraper. Qui prend les commandes. Évidemment, je serai attentif parce que vous n'avez pas passé 37 ans de vie dans un groupe avec toutes vos équipes, des amis partout pour vous désintéresser de ça. Donc, s'il y a des opportunités pour le groupe, j'essaierai de les transmettre. Mais maintenant, il y a une nouvelle équipe qui prend en charge et c'est très bien comme ça.
Merci beaucoup.